Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Dirigeants et Managers, dans lequel il sera question d'alignement et de coordination des contributions aux objectifs de l'entreprise. Parmi les quatre phases que je présente, dans laquelle placez-vous votre organisation, votre entreprise, votre division ou votre service? Je vous invite à partager vos réflexions et témoignages dans les commentaires de cet épisode. Je suis Christian Hohmann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. La phase initiale est celle du chaos créatif ou du chaos tout court. Alors qu'il existe un objectif commun de performance globale, les contributeurs œuvrent chacun dans leur coin comme bon leur semble. Sans coordination ni alignement, attendu du leadership des dirigeants ou par délégation du leadership des managers, donc sans coordination ni alignement, les contributeurs les plus actifs et les plus ambitieux se comportent le plus souvent comme des champions individuels. On trouve dans cette catégorie l'emblématique responsable de maintenance qui connaît les ficelles, trucs et astuces pour faire fonctionner les machines, qui ne documente rien, ne partage rien, se rend indispensable et est très heureux de pouvoir sauver l'entreprise chaque jour grâce à ses actions de sauveteur providentiel. Remplacer maintenance par informatique et machine par système ou maintenance par vente et machine par client, cela fonctionne tout pareil. Ces champions individuels sont surtout intéressés par le pouvoir ou l'influence qu'ils arrivent à exercer au sein de l'organisation. L'entreprise est dépendante de ses connaissances personnalisées, celles détenues uniquement par ces quelques personnes qui ont su se rendre indispensables. Au niveau performance globale, l'effet des différentes contributions non coordonnées ni alignées est quasi nul. Ces « contributions » entre guillemets sont des mouvements browniens, comme ces particules de poussière qui flottent de manière chaotique dans leur milieu, sans que ces mouvements individuels n'aient d'influence significative sur la performance globale. Dans la phase 2, les champions entraînent leurs collègues ou leurs services à chercher à optimiser collectivement leurs propres bénéfices. Soit les leaders se sont définis leurs propres objectifs, soit le système rétribue la performance locale. Une combinaison des deux est possible. Avec des objectifs autodéterminés ou attribués par une autorité, chaque entité va essayer de les atteindre, voire de les dépasser, pour engranger des récompenses et sans égard pour les autres entités, ni surtout pour la performance globale. Dans cette situation, on se donne facilement bonne conscience puisque le management attend précisément que l'on fasse le maximum. La performance globale, qui est la résultante de la somme des efforts, est une somme vectorielle dont l'orientation n'est pas nécessairement alignée sur l'objectif commun et global, et dont l'amplitude est fonction des effets d'annulation ou d'amplification mutuelle. En langage populaire, chacun tire la couverture à soi. Ainsi, le service qualité et le service production travaillent dans le même sens, mais leurs efforts sont largement annulés par le service achat qui est objectivé sur les prix d'achat les plus bas et n'hésite pas, pour en bénéficier, à faire des concessions quant à la qualité des fournitures. En cas de conflit d'intérêts, la direction est prise à partie par des baronnies, voire de véritables royaumes combattants, qui font valoir leurs intérêts légitimes, puisqu'ils sont objectivés, sans égard pour l'intérêt général. Dans la phase 3, les unités sont alignées. Un objectif commun est accepté, pour autant les différentes unités ne sont pas coordonnées. Le plus souvent, des objectifs locaux subsistent, qui interfèrent, voire s'opposent à l'objectif commun. Ce sont les fameuses injonctions contradictoires qui déboussolent les individus ou leur permettent de choisir celles qui leur conviennent le mieux de manière individuelle. Par ailleurs, il est fréquent que seules quelques unités locomotives tirent l'ensemble de l'organisation alors que de nombreux autres acceptent l'alignement sans contribuer effectivement. Les progrès sont lents, hasardeux, les locomotives s'épuisent et nourrissent du ressentiment envers les parties prenantes qui ne participent pas activement. Dans la quatrième phase, les unités sont alignées et contribuent de manière coordonnée à l'atteinte du but, de l'objectif global. Pour cela, il est indispensable non seulement d'aligner les unités, mais également de se défaire du mythe de la performance globale qui peut être atteinte par la somme des performances locales. En effet, pour déjouer les pièges des objectifs contradictoires, Certaines unités doivent volontairement dégrader leur performance, entre guillemets, et ceci selon la logique de l'optimisation locale, au bénéfice de la performance globale. Il s'agit donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour atteindre un objectif stratégique commun, un projet ou un but. La communication est clé pour vendre le projet, mais également pour garder la flamme tout au long du cheminement vers le but. Les éventuelles primes ou récompenses doivent être attribuées en fonction des avancées vers les objectifs de l'entreprise et éventuellement en fonction de l'intensité des contributions. Comment aligner et coordonner les unités ? Pour moi, l'alignement fait partie intégrante de la planification stratégique ou opérationnelle, alors que la coordination des entités est plutôt une contrainte d'exécution. Mes outils et méthodes préférées pour planifier et aligner les entités sont, dans l'ordre décroissant, le goal tree couplé à Oshinkanri, Oshinkanri tout seul, OKR, Objectives and Key Results. Je vous invite à visionner mes vidéos ou lire mes articles traitant de ces outils et méthodes afin d'en apprendre davantage. La coordination, quant à elle, se fait au travers de l'affectation des priorités, du management de projet et du suivi d'exécution. La palette d'outils et méthodes est pour cela assez vaste et le choix devrait se faire en tenant compte des outils et méthodes déjà connus et utilisés dans l'organisation. Pourquoi des phases ? Pourquoi y a-t-il des phases dans mon visuel ? Je suis convaincu que de nombreuses organisations ou entreprises passent séquentiellement par ces différentes phases depuis leur fondation jusqu'à leur maturité. Ce schéma d'évolution, relativement familier, fournit alors une bonne illustration pédagogique. Mais le passage séquentiel par ces quatre phases n'est nullement une fatalité. Si une start-up débute dans un état de chaos créatif, elle peut très bien aligner et coordonner ses contributeurs rapidement, en utilisant les outils et méthodes appropriés et sans passer par les phases intermédiaires. En conclusion, j'aimerais vous inviter à positionner votre organisation, votre entreprise, selon les quatre phases que j'ai présentées, puis de partager vos avis et témoignages dans les commentaires de cet épisode. Peut-être existe-t-il des variantes à ces quatre phases, voire même des phases différentes. Je suis très intéressé par vos retours, et qui sait, j'y trouverai peut-être matière à une nouvelle vidéo. Si dans l'intervalle vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode-ci, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement, aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.